Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. L'Allemagne en deuil après l'attentat contre le marché de Noël de Berlin qui a fait, selon un dernier bilan provisoire, 12 morts et une cinquantaine de blessés. Le suspect n'est peut-être pas un jeune Pakistanais demandeur d'asile comme on l'a cru au départ. C'est en tout cas ce qu'affirme le journal Die Welt et un responsable de la police à la mi-journée. L'Allemagne, jusqu'alors épargnée par des attentats de grande ampleur, se réveille sous le choc. Écoutez la réaction de Godlieve Quistudrovol, députée européenne allemande.
J'ai été tellement choquée que je n'ai pas compris l'affaire. C'était un choc très profond. J'ai entendu deux phrases hier soir quand je suis rentrée et je n'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait parce que c'était plus ou moins inimaginable. Et alors ce matin, j'ai réécouté le journal, les nouvelles, j'ai lu la presse et peu à peu, j'ai commencé à réaliser ce qui s'est passé.
C'est un endroit très symbolique qui a été touché.
Oui, c'est un endroit très symbolique et c'est surtout un endroit où il y a beaucoup de monde. Le marché de Noël est une tradition typiquement allemande. Dans toutes les villes, il y en a, des plus grands, des plus petits. Et Noël, c'est la fête la plus importante de l'année en Allemagne. Et c'est pourquoi le marché de Noël est aussi un symbole. C'est un symbole pour la paix, c'est un symbole pour la joie des gens parce que Noël va arriver. Et oui, c'est comme une petite fête continue pendant des semaines.
On a l'impression que l'Allemagne est de plus en plus dans le viseur de l'État islamique.
En Allemagne, on a cru longtemps qu'avec une politique neutre, on pourrait peut-être éviter des attentats. Bon, maintenant, traditionnellement, la politique extérieure de l'Allemagne est une politique plutôt neutre. Et maintenant, on remarque quand même de plus en plus que, oui, que le danger s'approche, et comme on vient maintenant de le voir, il ne s'approche plus. Il est déjà là. Ce qui, quand même, pour les Allemands qui étaient plus ou moins peut-être habitués à une sécurité, surtout qu'il y a eu plusieurs attentats qu'on a pu éviter parce qu'on a su quand ça allait se passer, etc. Alors, les Allemands se sont peut-être dit, ben nous ici, on est sûr, on va continuer un peu comme ça. Et ça ne marche pas.
Plusieurs attentats déjoués, vous l'avez dit, dont l'un qui devait viser un aéroport à Berlin. Est-ce que cette dernière attaque risque de raviver encore le débat qui existe aujourd'hui en Allemagne sur la question des migrants et des réfugiés?
Oui, je crois que tout attentat ravivera un débat qui existe en Allemagne, c'est vrai, mais qui existe aussi dans d'autres pays européens. Alors là, je crois que pour la centième fois au moins, en tant que députée européenne, je le dis et le répète, il faut une politique commune envers les réfugiés, envers la migration. Je crois que c'est plus nécessaire maintenant que jamais. Moi, je crois que ce que l'on attend des politiques, c'est d'agir.
Godlieve Quistudrovol, députée européenne CDU au sein du Parti populaire européen. Les attentats qui se multiplient également en Turquie. L'ambassadeur russe à Ankara, abattu d'une balle hier par un homme seul, déclarant vouloir venger les habitants d'Alep en Syrie. Sans compter la reprise du conflit entre le gouvernement et la rébellion kurde, avec une multiplication des attaques revendiquées par le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Depuis le coup d'État manqué de la mi-juillet, l'état d'urgence, la répression contre tous les militants pro-kurdes n'a jamais été aussi féroce. Dans le pays, les arrestations se multiplient à tel point que les défenseurs des droits de l'homme tirent la sonnette d'alarme. C'est le reportage à Istanbul d'Anand Lawar.
Un vent glacial souffle en cette fin d'après-midi devant les murs blancs de la prison pour femmes de Bakırköy à Istanbul. Le joueur de saz et la pianiste jouent le plus fort possible pour qu'Aslı Erdoğan et Necmi Alpay entendent que leurs soutiens sont là, comme chaque lundi et chaque vendredi. La romancière Aslı Erdoğan et la linguiste Necmi Alpay sont détenues derrière ces murs depuis près de 4 mois. La justice leur reproche d'avoir contribué au quotidien Özgür Gündem, désormais interdit, proche de la ligne politique du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK en guerre contre l'État turc. Les deux femmes sont poursuivies entre autres pour propagande et appartenance à une organisation terroriste. Ayşegül Tözeren, critique littéraire et amie d'Aslı Erdoğan, organise le rassemblement.
Nous ne sommes pas seulement ici pour Aslı et Necmiye, nous sommes ici aussi pour les 142 journalistes emprisonnés, pour tous ceux qui sont détenus à cause de leurs opinions.
Depuis le 15 juillet, nuit d'une tentative de putsch qui a fait 248 victimes, la riposte est implacable. Elle a d'abord visé les sympathisants présumés de l'imam Fethullah Gülen, accusé d'avoir fomenté le coup d'État manqué. Au moins 40 000 personnes sont derrière les barreaux dans les cadres des enquêtes sur la tentative de putsch. Très rapidement, la riposte s'est élargie à toute l'opposition pro-kurde. Journalistes, écrivains, des centaines de membres et plus d'une dizaine de députés du parti pro-kurde, HDP, tous soupçonnés de près ou de loin d'être liés ou de soutenir le PKK, même s'ils n'ont jamais pris les armes, risquent d'être arrêtés. Un amalgame que dénonce Andrew Garner, chercheur pour la Turquie à Amnesty International.
Nous n'avons jamais dit, et personne n'a jamais dit, que la Turquie devrait être clémente avec ceux qui commettent des attaques à la bombe ou des crimes aussi graves qu'une tentative de putsch. Ce que nous disons, c'est qu'il faut tracer une ligne entre ces derniers et ceux qui font des déclarations politiques qui n'incitent pas à la violence, même s'ils partagent certains buts politiques avec ceux qui utilisent la violence. Vraiment, cela n'entamerait en rien les efforts de la Turquie pour assurer sa sécurité. Bien au contraire.
Les poursuites judiciaires sont largement facilitées par la définition très large du mot terrorisme dans le code pénal turc. Une définition dont l'Union européenne et les ONG comme Amnesty réclament depuis des années un assouplissement. Dans le contexte actuel, les suites d'une tentative de putsch et des attentats à répétition, ces appels restent sans réponse, constate Andrew Garner.
Nous traversons une crise dans laquelle une écrivaine comme Aslı Erdoğan peut être poursuivie non seulement pour propagande pour une organisation terroriste, accusation classique pour s'en prendre aux voix dissonantes sur la question kurde en particulier, mais aussi pour tentative de renversement de l'État par la violence.
Environ 40 000 personnes ont été placées en garde à vue et plus de 10 500 incarcérées dans le cadre des seules enquêtes sur le PKK. Après 3 ans de cessez-le-feu, la guerre a repris dans toute sa violence à l'été 2015 entre les forces de sécurité et les séparatistes kurdes. Ces derniers multiplient par ailleurs les attentats sanglants dans le sud-est du pays, autant que dans les métropoles de l'ouest comme Istanbul ou Ankara. L'avocate Eren Keskin est un symbole du changement radical dans l'approche des autorités depuis 1 an et demi. Cette militante de la cause kurde depuis des décennies qui a fait de la prison dans les années 90 était libre de toute poursuite il y a encore 2 ans. Aujourd'hui, elle affronte 140 procès liés à sa contribution au quotidien Özgür Gündem.
Même dans les années 90, nous étions plus libres de nos mouvements. Actuellement, l'état d'urgence est en vigueur dans tout le pays. Il est légalement impossible de s'opposer aux violations des droits de l'homme. Chaque soir, en me couchant, je me demande s'ils viendront me chercher au petit matin. C'est effrayant. C'est comme si nous étions déjà tous en prison.
Erol Önderoğlu, représentant de l'ONG Reporters sans frontières en Turquie, risque également 15 ans de prison dans le cadre d'une enquête sur le journal Özgür Gündem. Il regrette l'approche sans nuance des autorités turques au sujet de la question kurde, qui assimile toute voix dissonante à un soutien au terrorisme et exclut tout espoir de paix.
Ce n'est pas parce que le gouvernement lutte contre les PKK que la question kurde n'est plus une question sociale ou politique ou culturelle, et que ces masses politiques doivent être privées de leurs médias, de leurs formes d'expression, etc. Le gouvernement turc se contente d'imposer une forme de politique radicale.
Entre la Turquie et les ONG qui dénoncent cette approche, entre la Turquie et l'Union européenne, les canaux de communication continuent d'exister. Mais pour combien de temps encore, s'inquiète Andrew Garner d'Amnesty International.
Quand vous voyez des collègues, des amis avec lesquels vous avez travaillé pendant des années, être poursuivi par la justice ou emprisonné, vous ne pouvez qu'être inquiet pour tout le mouvement de défense des droits de l'homme en Turquie. Nous vivons une période sans précédent. Si vous m'aviez demandé il y a 6 mois si cela était possible de fermer 375 ONG avec un seul décret de 2 lignes disant « lien avec le terrorisme et menace pour la sécurité nationale », je vous aurais dit que cela était impossible.
Une période sans précédent sous un régime d'état d'urgence qui devrait être prolongé pour au moins 3 mois en janvier.
Bon.
beaucoup de travail aussi pour Reporters sans frontières au Monténégro, petit pays oublié des Balkans, pour avoir enquêté sur le crime organisé et la corruption. Un journaliste d'investigation, Jovo Martinovic, se retrouve aujourd'hui en prison. Son procès a débuté ce vendredi. Sur place, Simon Rico.
Depuis plus d'un an maintenant, le journaliste Jovo Martinovic croupit en prison. Le 22 octobre 2015, le reporter était interpellé par la police du Monténégro lors d'un vaste coup de filet opéré conjointement avec la Croatie contre un groupe criminel. C'est pourtant un professionnel reconnu, il a publié dans de nombreux médias locaux et internationaux comme le Financial Times, Vice ou la Süddeutsche Zeitung. Mais cela n'a pas joué en sa faveur. Ce n'est qu'au bout de 6 mois de détention provisoire qu'il a été officiellement inculpé et il aura fallu encore 8 mois de plus pour que son procès ne commence. Jelko Ivanovic, le directeur de Vesti, le principal journal indépendant monténégrin, dénonce une énième tentative du pouvoir d'empêcher la presse d'informer.
Ces 10-15 dernières années, il y a eu de nombreuses affaires similaires. Des juges, toujours les mêmes, ont lancé plusieurs enquêtes contre les médias libres sur la base de fausses informations. Tout cela m'inquiète beaucoup pour le procès de Jovo Martinovic et je ne sais vraiment pas comment ça va se terminer.
Human Rights Watch et plusieurs associations de journalistes ont lancé une campagne pour réclamer la libération immédiate de Jovo Martinovic. Jusqu'à présent, aucune preuve sérieuse n'a été présentée contre lui et son seul crime semble d'avoir été en contact avec des mafieux dans le cadre de ses enquêtes sur le crime organisé, la corruption et le trafic de stupéfiants dans les Balkans. L'un de ses co-accusés, le fondateur du célèbre gang serbo-monténégrin des Pink Panthers, a même pris sa défense à la barre, déclarant que Jovo Martinovic n'avait rien à voir avec les faits dont il est accusé. Dans son classement 2016 pour la liberté de la presse, Reporters sans frontières qualifie le Monténégro de cancre de l'Europe et lui attribue une très mauvaise 106e place sur 180. Pour RSF, l'information est réduite à l'autocensure dans ce petit pays d'à peine 620 000 habitants, gouverné depuis 25 ans par le même homme, Milo Djukanovic. Le procès de Jovo Martinovic en est le triste exemple.
Paris enfermé sous une chape de pollution multiplie les journées de circulation automobile alternée. C'est sans compter les autocars au diesel qui manifestent aujourd'hui pour garantir leur droit de circuler. Londres, aussi gravement touchée aux poumons, 40 000 personnes mourraient chaque année prématurément en raison de la pollution. La capitale britannique pionnière avait instauré un péage urbain dès 2003. Mais aujourd'hui, cela ne suffit plus et la métropole réfléchit à d'autres dispositifs. C'est le reportage de Marie Billon.
2016 est bientôt terminée, mais elle finit aussi mal qu'elle a commencé en termes de pollution à Londres. Avant le 10 janvier, la capitale britannique avait déjà dépassé la limite européenne annuelle. Début décembre, la ville a connu un fort épisode de pollution. Cela a permis au maire Sadiq Khan de tester son nouveau gadget, des messages d'alerte qui s'affichent dans les métros et les arrêts de bus notamment pour prévenir les londoniens du danger. Il est conseillé aux plus fragiles et aux plus jeunes de ne pas sortir. Alors Londres et ses start-up rivalisent d'idées plus ingénieuses que les autres pour améliorer la qualité de l'air.
Je m'appelle Sophie Power, je suis la directrice d'Air Lab et nous avons créé une technologie qui nettoie l'air pollué. Nous sommes sur Oxford Street, l'une des rues les plus commerçantes de Londres et possiblement la rue la plus polluée d'Europe. Vous voyez, il y a plein de taxis et de bus et même si les véhicules personnels sont bannis de 7h du matin à 7h du soir, la qualité de l'air est terrible. À l'approche de Noël, il y a tellement de monde sur le trottoir, sans parler de la route. Décembre est le pire mois de l'année.
Sophie n'a pas donné à ce boulevard le triste titre de champion de la pollution à la légère. Elle consulte régulièrement les données d'un moniteur installé par l'université King's College London. Il y a une centaine de ces moniteurs dans tout Londres. Ils permettent de vérifier en temps et en heure la qualité de l'air. Des données scientifiques qu'Air Labs vulgarise pour le public qui utilise l'application smartphone City Air App. Les londoniens précautionneux peuvent par exemple exemple lui demander de passer par le chemin le moins pollué pour se rendre là où ils veulent. Souvent pas besoin de grands détours, dit Sophie, il suffit de prendre une petite rue parallèle. Mais pour ceux qui préfèrent les grands boulevards malgré tout, Air Labs a développé un nouveau concept.
Nous sommes sur Bird Street, une petite rue perpendiculaire à Oxford Street. Et grâce à des fonds de la mairie, nous allons bientôt y installer une sorte d'oasis, un clean air bench, un banc qui nettoie l'air. Il sera en forme de demi-cercle. 6 personnes pourront s'asseoir dessus. L'air propre proviendra des accoudoirs et ça créera une sorte de bulle invisible pour les personnes assises et à proximité.
Le clean air bench devrait arriver sur Oxford Street vers le début de l'année 2017. L'idéal serait d'en avoir un peu partout, peut-être à chaque arrêt de bus, imagine Sophie. Mais comme il est impossible de placer chaque londonien dans une bulle, la mairie cherche d'autres solutions. Le coupable, lui, reste le même pour tout le monde, l'automobiliste. Ceci est un extrait d'une vidéo de campagne de Sadiq Khan publiée en début d'année lorsqu'il était candidat à la succession de Boris Johnson. Largement élu en mai dernier, le nouveau maire est très actif sur les questions de pollution. Caroline Russell est une élue de Londres du Parti Vert. Elle travaille sur plusieurs projets initiés par la mairie.
L'an prochain, il y aura dans le même périmètre que le péage urbain une nouvelle taxe sur les émissions polluantes. Y conduire coûtera un peu plus de 20 livres par jour. Et une consultation est organisée en ce moment par le maire pour déterminer la taille d'une future zone à très basse émission qui devrait être délimitée par le périphérique. 3 millions de personnes vivent là. Cette zone pourrait même être encore plus grande et s'étendre jusqu'à l'autoroute qui borde Londres, ce qui inclurait alors 8 millions d'habitants.
C'est un bon projet pour Caroline, mais il ne faut pas avoir peur de faire dans le détail, dit-elle. Tous les automobilistes ne sont pas égaux devant la pollution qu'ils produisent avec leur véhicule et cela devrait être reflété dans la facture à payer. Pour l'instant, tout le monde paye le même prix.
Il nous faut un système plus sophistiqué qui facture l'automobiliste en fonction de l'heure de la journée pendant laquelle il roule. La nuit, ce ne serait pas très cher en fonction des routes empruntées. Et si c'est dans le centre, là où les transports en commun sont très développés, ça coûte cher. Et en fonction aussi de la distance parcourue. Une partie du prix dépendrait directement de la qualité de moteur. On pourrait faire ça de manière intelligente, avec des prix différents pour les personnes handicapées qui ont besoin de leur voiture. Tout cela pousserait les gens à moins conduire.
En tout cas, le péage urbain, cette invention londonienne datant de 2003, est dépassé et ne suffit plus de l'avis des spécialistes. Les automobilistes doivent payer 12 livres, soit environ 14 euros par jour, pour conduire dans les quelques kilomètres carrés de l'ultra-centre de la capitale, mais uniquement en semaine entre 7h et 18h. De toute façon, dit Simon Alcock de la campagne pour un air propre au sein de l'organisation Client Earth, la capitale ne peut pas régler tout toute seule.
Nous voulons que le gouvernement incite les gens à ne pas acheter des véhicules diesel polluants, mais plutôt des voitures propres. On pourrait imaginer des incitations fiscales pour récompenser les acheteurs vertueux et une prime à la casse pour les vieux véhicules polluants. Parce que ce n'est pas leur faute s'ils ont ces voitures. Ils ont été encouragés à acheter des diesels parce qu'on leur disait que c'était meilleur pour l'environnement, mais en fait c'est une catastrophe pour la santé. C'est un scandale, un vrai scandale. C'est pour cela qu'il est grand temps que le gouvernement fasse quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle nous lui avons fait un procès et avons gagné.
Client Earth a effectivement attaqué le gouvernement et deux fois l'organisation a eu gain de cause. La première fois, c'était en 2015. La Cour suprême a ordonné au ministère de l'Environnement de trouver un moyen pour faire revenir, dès que possible, la pollution atmosphérique dans les limites européennes. Selon Client Earth, les plans mis en œuvre étaient tellement faibles qu'ils ont de nouveau attaqué le gouvernement devant la Haute Cour. Le mois dernier, un juge a estimé que les efforts des autorités étaient loin d'être suffisants. Simon Alcock allie désormais la carotte et le bâton.
Il y a une véritable opportunité pour que le Royaume-Uni devienne le leader mondial en matière de technologie à zéro émission. Alors allons-y, faisons l'effort pour créer ces voitures électriques totalement propres dont nous aurons de toute façon besoin dans le futur.
Simon voudrait aussi que le centre de la capitale ne soit rapidement accessible qu'à des véhicules non polluants. Si les londoniens semblent accepter sans trop broncher le péage urbain qui augmente, une interdiction de circuler pourrait être une toute autre affaire. Accent.
en Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site et sur les réseaux sociaux. Restez à notre écoute dans quelques instants. Un nouveau point sur l'information sur RFI.
Autour de